Bonjour à tous, enchanté de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto sur le 106,6 de Radio Campus Lille ou www.campuslille.com. Au menu de cette émission, nous avons rendez-vous avec Antonio Pereira et Francis Decoq. Antonio, bonjour. Bonjour. Et Francis également, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Michel. Alors Antonio, tu nous proposes de découvrir le nord du Portugal à moto.
Tout à fait, là, pour les motards voyageurs.
Alors, raconte-nous comment ça se passe.
Écoutez, c'est très simple, on prend un billet d'avion avec une compagnie low cost, on ne va pas faire de pub, il y en a beaucoup, hein, donc ça ne revient pas très cher jusqu'à Porto. L'aéroport d'arrivée, c'est Porto, il y a des vols de Charleroi, de Lille, de Beauvais, enfin de toute la grande région.
Et on visite quelle région là-bas au Portugal ?
On visite le Minho. Le Minho, c'est au nord.
Explique-nous un peu, hein, parce que pour les gens qui ne connaissent pas trop le Portugal, c'est au nord du Portugal.
Ouais, tout à fait. Le Minho, c'est la région nord du Portugal. C'est le cœur de la nation portugaise. C'est dans le Minho qu'est né le Portugal. Donc le premier roi portugais est né dans le Minho. Les premières batailles pour chasser les Sarrasins de l'époque sont
Donc il n'y avait pas de Portugal avant, il n'y avait que cette région.
C'était des provinces, des provinces affiliées à l'Espagne. En fait, il y avait des rois français, il y avait les ducs de Bourgogne, parce qu'il faut savoir que le premier roi portugais, donc le fondateur de la nation portugaise, a du sang français.
Ah oui, parce que du temps de Napoléon, il y a Napoléon qui va aller, bricoler là-bas et qui va envahir
C'était avant. Avant Napoléon, Napoléon est arrivé. Napoléon a essayé.
Non, mais j'ai vu ça un peu.
Napoléon a essayé de prendre le Portugal, hein, comme la grande majorité de l'Europe, mais il a été bloqué par les Anglais. Hein. Le Portugal a une alliance très très ancienne avec l'Angleterre, donc ça l'a bloqué. Mais enfin, ça, c'est l'histoire.
On en parlera.
On en parlera.
C'est toujours intéressant. Quoi.
Et puis quand on balade là-bas en moto, on visite des sites, on voit d'ailleurs la ville de Valence qui est une ville fortifiée, une des plus grandes forteresses d'Europe, la Valence du Minho. Valence du Minho, c'est le nom exact, sur le bord du Minho. Et on voit d'ailleurs les murailles de Valence, il y a une maquette où on voit les dégâts faits par les troupes de Napoléon. Ça, c'était beaucoup après. Hein,
on y vient quand même, on y arrive.
Ils sont fiers de ne pas avoir laissé rentrer les Portugais, les Français. Moi, par contre, j'invite tous les Français à y venir. Quoi.
Francis, lui, a participé à l'une de tes semaines de visite là-bas au Portugal. Donc tu nous diras la réalité, hein, si c'est vraiment bien ou pas bien.
Tout à fait. Donc Francis... au micro, je confirme, j'ai passé une semaine au mois de mai avec Antonio et puis des amis de chez Triumph. Hein, on avait constitué un groupe d'amis et on a eu la chance de découvrir sous une autre forme que la voiture. On l'a découvert en moto sur des 400 cm3 mâches qui sont très volontaires. Une très belle région à visiter. Donc j'ai la chance aussi d'avoir visité celle du sud, mais alors celle du nord, donc le Minho, c'est une région très verdoyante à proximité de la mer.
Apparemment, ça commence bien pour Antonio.
Tout à fait.
C'est bon, parce que tu aurais dit l'inverse, tu vois.
J'ai un deuxième témoin ici présent, monsieur Perlinski, qui peut aussi dire.
Ah, bah oui, mais ça, je savais pas.
Monsieur Perlinski,
je savais
Bruno,
pas que monsieur Perlinski avait également visité Minho.
J'ai visité, je confirme, c'est exceptionnel.
Ce qu'il n'a pas aimé, c'est la boisson locale. Il n'a pas aimé.
Il n'a pas aimé la boisson locale.
Le Porto, le vin vert.
C'est Porto là-bas, non, je suis pas.
Ah, ouais, bien sûr, le Porto, c'est intéressant. Mais la boisson, c'est le vigno verte qui est un vin très soft. Ce n'est pas un vin très, très alcoolisé.
D'accord.
Et qui passe quand il fait chaud. Donc
ça passe bien.
Moi, j'appelle ça le Perrier portugais.
Le Perrier portugais, d'accord.
Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alcool.
Et Bruno n'a pas aimé.
Non,
m'étonne.
C'est une boutade. C'est la quantité.
C'est une boutade.
Et ben voilà, puisqu'on parle avec Bruno Perlinski, bonjour Bruno, bonjour. On va parler de cette bourse d'échange qui aura lieu, donc expo et bourse d'échange qui aura lieu le 23 février à la salle Pierre Hermann à Wascal.
C'est ça.
Vous êtes à fond là maintenant pour la préparation de cette journée.
Donc on prépare les motos à exposer et donc on a toujours nos associés, les vieux clous, le caïman, vous. Vous,
oui. Ah bon,
Kikinkou, le Club Triton et le Team Rabbit. Donc tout se met en place et on espère vous présenter quelque chose d'attrayant et on vous attend tous avec la buvette et les sandwichs et compagnie.
Ouais, c'est 3 euros l'entrée. Hein. 2 euros ou 3
2 euros 2 euros, c'est symbolique.
Oh, c'est vraiment symbolique.
Hein. Ouais, voilà.
Mais moi je trouve que là vous êtes un peu à l'étroit depuis quelques années. J'ai remarqué que quand même la bourse elle prend de l'ampleur, du volume.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis on essaye tous les ans de changer. On ne présente pas les mêmes motos, hein, donc c'est vrai qu'on pourrait faire plus grand, mais c'est dur quand même de renouveler chaque année.
On est à peu près 100 motos. Il faudrait changer de salle.
Oui, oui, mais il faut la trouver.
Je sais pas, ça peut être un filon. Hein, c'est pas évident pour les se garer.
Oui, surtout que sur le parking, on voulait faire une vente de motos cette année. Hein. Donc, vous arrivez avec votre moto, vous exposez votre moto sur l'extérieur et vous pouvez mettre un petit panneau pour la vendre. Donc, ça peut être aussi une occasion.
Donc, ça va prendre encore plus sur le parking. Alors.
Voilà.
Bon, c'est compliqué. Voilà. Bon, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Allez, Nicolas Poiret nous raconte l'histoire de Moto Guzzi, Nicolo.
Bonjour,
Nicolo.
Ouais, bonjour la miche, bah oui, il y a 15 jours, je racontais l'histoire de la Triumph Bonneville.
Ça a bien plu aux auditeurs, et on s'est dit, pas qu'on ferait pas ça pour Moto Guzzi.
Bah oui.
Et d'autant plus que dans le calendrier, page exactement 48, on a une petite histoire, un résumé de l'histoire.
Un petit encart de l'histoire, et là on va revenir un petit peu plus en détail, hein. On va partir en Italie pendant la Première Guerre mondiale, parce que c'est là que tout a débuté, pour découvrir l'histoire de Moto Guzzi.
Et alors attention, parce que l'année prochaine...
Ah, c'est les 100 ans.
C'est les 100 ans de Moto Guzzi. Ouais. Et il paraît que tout est réservé déjà, les hôtels et...
Je ne sais pas si on peut réserver d'une année sur l'autre, parce que ce n'est pas cette année, c'est l'année d'après.
Oui, mais j'ai entendu dire que c'était déjà...
Les prix vont monter, c'est évident. Mais on prendra l'attente. Mais voilà. Oui, c'est bien.
Ben, nous, on ira en tente. Ouais. Bon, parce qu'on va y aller quand même. Mmh. Voilà. Le grand rendez-vous des motards et aussi la première grande sortie, hein, c'est dans 15 jours pour l'Enduropal du Touquet. Et nous sommes en compagnie de Philippe Charlie qui va participer à la course vintage vendredi 31 janvier de 14h30 à 15h30. Bonjour Philippe.
Bonjour. Ouais. Alors oui, effectivement, plus 15h30, mais pour des questions de marée, ils ont modifié, c'est 14h-15h.
Oh bon, bah,
Mais voilà. Bon, ça ne change pas grand-chose, hein. Faites un petit peu
donc il faut modifier sur le calendrier, parce que c'est ce qu'on avait mis. Est-ce que tu es prêt pour le l'édition vintage 2020?
C'est une bonne question.
Toi, tu as fait de la muscu?
Ouais, mais j'ai écourté, parce que j'ai fait une petite chute, quoi, et puis j'ai mal au dos. Donc voilà, et physiquement c'est un peu plus compliqué. Et puis mécaniquement, ma moto elle est remontée depuis hier.
Aïe.
Et donc pareil, j'ai cassé la boîte, enfin il a cassé un fourreau de fourche.
La moto
donc,
c'est quoi?
C'est un 240 KTM GS de 81, refroidissement à air, de tambour.
Et tu as l'habitude de rouler dans le sable? Parce que c'est particulier le sable. Hein.
Alors oui, effectivement, moi j'étais pas très habitué, je suis pas originaire de la région, donc le sable je connaissais pas bien. Tant je vais à Lune Plage, oui. Alors là, j'ai que deux séances de roulage parce qu'à chaque fois j'ai fait de la casse.
Je suis un peu poissard aussi. À chaque fois que tu vas à Lune Plage, mais tu t'entraînes.
C'est des motos qui sont pas forcément, qui souffrent un peu quand même dans le sable. J'ai toujours un peu de mal. Elles n'étaient pas forcément, je pense, prévues pour le sable. Bon, en même temps.
Puis c'est particulier. Il faut faire attention à l'embrayage. Hein. On peut cramer son embrayage facilement dans le sable. Hein.
J'ai regardé là, l'embrayage, il est un peu fatigué alors qu'il est quasiment il y a 5 heures de roulage, et donc tout ça va être compliqué. Donc le pilote et puis la moto, il faut les ménager donc pour aller jusqu'au bout, quoi.
Ouais, écoute, on va y aller de toute façon vintage, on te verra. Okay, sur
numéro 110.
Numéro 110, voilà, allez, on retient numéro 110. Voilà. Et c'est voilà. Bah, tu restes au micro parce qu'on va parler de l'ASPI. Alors dimanche dernier, nous avions Vianney Alexandre qui est associé fondateur de la société Folombré Arena et qui propose un projet de reprise de gestion du circuit de Le Zen. Et ça vous a fait réagir. Alors, toi Philippe, parce que tu es vice-président de l'ASPI, tu vas nous dire ce que c'est que l'ASPI. Alors Bruno Perlinski, exactement, qui fait partie de cette association en fait, hein, et Xavier Couteau qui est avec nous et qui devait changer de micro et qui ne l'a pas fait, qui est là, qui me regarde. Et voilà. Hein. Et dites-nous pourquoi ça vous a fait réagir les propos de Vianney Alexandre?
Disons que ça nous a fait réagir, un petit peu dans le sens où depuis le départ...
D'abord, il faut dire ce que c'est que l'ASPI.
Ouais, alors, on va recommencer par le départ. Effectivement, l'ASPI est une association qui a été créée suite à la fermeture, en tout cas à la liquidation de la RCM. Donc, je rappelle l'association pour la réalisation de la complexe motocycliste. Et l'ASPI qui est une association qui est l'association sécurité, prévention et initiation. Et donc qui a été créée 2018, je crois c'est printemps 2018, alors le mois que je ne sais pas exactement, à la fermeture de la RCM. Et donc nous on a créé une association pour essayer évidemment de poursuivre finalement le travail qui a été effectué. On sait que le zen est quand même quelque chose d'important sur la région. Alors c'est pas qu'une piste où on vient rouler et se lâcher, mais quand même il y avait une grande partie de travail de pédagogie, d'éducation, de prévention, sécurité routière.
À l'origine du circuit, c'est ça. Hein,
et c'est exactement ça. Donc on voulait pas l'oublier. Donc on a effectivement recréé cette association avec un certain nombre de bénévoles. Entre autres des salariés, des gens aussi qui étaient de bonne volonté. Moi, j'y ai travaillé quasiment 80% de mon temps en tant qu'éducateur, parce que je suis à l'origine aussi éducateur, technique spécialisée, donc je viens avec des jeux, je venais.
Oui. Non,
je suis obligé de parler. Je venais avec des jeunes, 80% de mon temps pour travailler autour du trial principalement, mais pas que. Et donc du coup, on trouvait dommage de voir cette piste fermée. Donc l'idée était de remettre en œuvre un projet.
Donc là, si on reparle du projet, donc il y a un côté, donc c'est des businessmen. Hein,
alors, ce qui s'est passé, c'est que
la gestion, c'est des gens qui vont ramener. Il faut de l'argent pour réouvrir le.
Oui,
le
alors effectivement,
il faut beaucoup d'argent.
Aujourd'hui, c'est compliqué.
Et l'association ne l'a pas.
Pour évidemment des raisons évidentes, on n'a pas d'argent. Hein, en tous les cas, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, on le sait, c'est peut-être aussi ce qui ça pesait aussi dans la fermeture de la RCM. Et donc aujourd'hui, comment trouver de l'argent ? Bah, il faut s'associer. Par notre réseau, on a réussi à capter finalement ces personnes, par entre autres l'intermédiaire de la FFM. Quand on a su qu'il y avait un projet qui était en cours de réalisation, eh bien, on s'est vite associé pour essayer de maintenir le côté social, entre
guillemets. Alors, ce qu'il faudrait dire, c'est qu'il y aurait un côté business, faire gagner de l'argent, et à côté, en parallèle, un peu comme à Carole, on m'a dit, une association qui ferait perdurer l'éducation, en fait.
Alors, effectivement, on n'a rien contre le projet que développe Follembray, hein, loin de là, au contraire, justement, si ça peut permettre la réouverture, tant mieux. Sauf qu'effectivement, on sait que la MEL n'autorisera de toute manière ce projet qu'à partir du moment où il y a un volet, alors on le met social, on peut mettre beaucoup de choses, hein, mais de prévention, d'éducation à la sécurité routière et principalement aux deux roues. Voilà, et aux deux roues. Et ça, on y tient. C'est-à-dire qu'on veut voir quand même sur la piste de nouveau des deux roues rouler. Même s'il n'y aura pas
ils ont beaucoup d'idées, hein, là-bas, cette société-là, l'Arena Participation, hein, ils font du vélo, là on a une petite plaquette qui est bien faite, hein, et qui propose faire du vélo, hein, du vélo sur la piste, on voit des Formule 1 aussi sur la piste, et on voit des motos, bien sûr, hein, c'est évident, et on voit plein de choses, donc tout ça pour faire que le circuit puisse gagner de l'argent. Et perdurer.
C'est sûrement ce qui a pêché un peu, d'ailleurs, avec l'ancienne association, hein, de la RCM. C'est-à-dire qu'il aurait fallu, je pense, beaucoup plus développer, mais ça, c'était jamais très très simple. Donc on a pêché là-dessus, puisque je faisais partie aussi du conseil d'administration de la RCM. Donc on peut être que pour. Enfin, maintenant, on veut quand même qu'aujourd'hui, dans le futur, en tous les cas, le projet, la moto reste quand même partie prenante. Voilà, un des sports le plus exprimé sur la piste. Quoi.
Très bien, écoute, on va passer à un morceau de musique. On reviendra un petit peu sur le projet dans la troisième demi-heure. Laurent, bonjour.
Eh bien, bonjour à tous. There's a black crow I follow. With a pack of wolves who running by my side. Through a darkness as dark as any mine. With a full moon hanging dead up in the sky. There's no one to. This wayward blindness. There's no peace in accepting what is lost. There's no chance for a soul to find salvation. Some things can't be had at any cost. There's no one to me. All that I've done. There's no forgiving.
Antonio, tu me fais ça, c'est
là,
quoi?
Là, je m'attendais pas à la musique.
D'habitude, dans l'émission, c'est rare d'entendre ça.
Non, tout à fait, on est au cœur du Portugal, là. Et en plus du nord du Portugal.
Ah oui.
C'est une chanson plus nordique que sudiste.
D'accord. Donc, pourquoi il y a une différence aussi en Portugal entre les nordistes et les sudistes?
Oui, bien sûr.
On pourrait faire un bienvenue chez les Portugais du Nord.
On pourrait, c'est peut-être pas aussi... aussi frappant qu'en France entre un Marseillais et un Dunkerquois, mais il y a quand même une différence entre... le Portugal fait que 900 km, hein, nord-sud. Il y a une différence, déjà une différence climatique. Hein. Le nord est plus tempéré. Donc,
Alors tempéré, ça veut dire quoi? Il pleut beaucoup? Il fait froid?
Non, il pleut.
Il fait quelle température aujourd'hui là-bas au Portugal?
J'y étais la semaine dernière, j'ai eu 3 jours de moto, donc j'ai roulé pendant 3 jours, il faisait 15 degrés.
15 degrés,
donc,
bon,
c'est comme... J'ai pas eu de pluie.
Remarque, par ici, ça va aussi. Hein, mis à part aujourd'hui.
Bruno était venu au mois d'octobre, il y a eu un petit peu de pluie, il me semble. Hein.
On a mangé tous les jours en terrasse. Hein.
Oui, d'accord. Donc le climat du nord, bon, c'est pas le climat des Hauts-de-France. Hein. Quand on parle du nord, c'est le nord du Portugal. Ça reste quand même ce qui est bien, c'est qu'il ne fait pas très 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 chaud, contrairement au sud. Il fait très 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 chaud. On ne peut pas rouler en moto, même en mois de juin. Si vous avez un blouson, c'est compliqué. Le nord, on supporte quand même. C'est agréable. Quoi.
D'accord. Donc, on va revenir un petit peu sur ce que tu proposes. Hein, c'est faire des balades et découvrir la région de Minho, qui est au nord du Portugal. Mais d'abord, pourquoi tu proposes... on va dire que tu es né là-bas. Tu es né au Portugal. Donc, tu es portugais. T'as
Je suis portugais. Bien que mes parents soient naturalisés français, je suis toujours portugais.
Voilà, à l'âge de 7 ans, tu quittes le Portugal et avec tes parents et tu viens vivre ici, tu suis tes parents forcément.
À Roubaix-Tourcoing, textile, c'était la grande...
Il y avait du travail, il y avait du boulot.
Travail, c'est le travail, donc ce sont des entrepreneurs français, hein, les grands patrons qui allaient chercher la main d'œuvre là-bas. Hein,
donc, carrément.
Ils ne sont pas venus par hasard, hein, c'est un peu comme les mineurs dans...
Et à l'inverse, là-bas au Portugal, il n'y avait pas beaucoup de boulot.
Voilà, et puis le nord du Portugal, qui est une région déjà assez industrialisée, donc il y avait une main-d'œuvre qualifiée. Donc les grands patrons de l'époque étaient malins, ils allaient chercher des gens qualifiés, ils avaient pu les former. Mon père travaillait dans le textile au Portugal, il était teinturier dans une teinturerie. Il arrivait en France, ils ont été le chercher parce que c'était un travail qualifié déjà là-bas.
D'accord. Donc on est venu chercher tes parents, et forcément toi tu as suivi. Donc
j'ai mis mon école en France, hein, je suis plus jamais retourné au Portugal de toute mon adolescence. Et je suis arrivé en France, j'avais 8 ans et demi, et la première fois que je suis retourné au Portugal après, j'avais 25 ans. Donc je suis quand même resté longtemps sans mettre les pieds au Portugal. Parce que mon père ne voulait plus en entendre parler.
Ah oui, carrément.
Oui, oui, parce qu'il a quitté le Portugal, dit le Portugal ne m'a rien donné. Contrairement à beaucoup de Portugais, il y avait une mentalité un peu particulière. Il s'est naturalisé français. Moi, si je ne suis pas français, c'était pour une question d'armée. Quoi. Je ne voulais pas faire l'armée, j'étais un peu réfractaire à l'armée. Et si je me naturalisais français, j'étais obligé de faire l'armée. Ouais. Donc en restant portugais, j'ai échappé au service militaire. C'est uniquement pour ça. Hein.
Bon. Donc, tu as travaillé aussi ici dans le Nord, hein, voilà, et tu as de la chance parce que toi, tu n'as pas la retraite à point, donc tu bénéficies de ta retraite parce que maintenant, tu es en retraite et tu te dis, tiens, je vais faire découvrir ma région que j'aime bien là-bas au Portugal. Exactement. Et je vais monter des semaines. Alors, il y a une semaine au mois de mars, une semaine au mois d'avril.
Il
y a une semaine, ça
commence au mois de mars. Enfin, ce n'était pas prévu le mois de mars, mais il y a des amis qui m'ont demandé de l'organiser une session. Mais sinon, ça commence officiellement aux vacances de Pâques.
Voilà.
Donc Pâques, il y a deux semaines en avril, il y aura deux semaines au mois de mai, il y aura une semaine au mois de juin, donc c'est quand même, et puis après il y aura trois semaines au mois de septembre. Donc ça reste quand même limité, hein. Donc si vous voulez venir, ça sera ni juillet ni mois d'août, hein, parce que c'est déjà c'est plus compliqué.
Il y a trop de
touristes. Ouais, et puis l'hôtellerie, les prix, on n'a pas le même service, hein, donc c'est vraiment des balades...
Alors,
au cœur du pays, en cœur du milieu.
Tu as un site internet, donc je me suis permis d'imprimer les pages. Sympa. Donc, il est marqué comment ça marche. Alors d'abord, je pré-réserve ma semaine.
Oui, malheureusement, la pré-réservation ne fonctionne pas, car le calendrier est HS et je ne peux pas le faire fonctionner. Donc, la meilleure moyen de pré-réserver, c'est de m'appeler ou d'envoyer un petit mail sur le site.
Il n'y a pas de téléphone. Bon, voilà.
Si sur le site, il y a le...
Tu vois, sur l'écran, qui a imprimé, s'il n'y a pas le numéro de téléphone. Bon, enfin bref, il faut quand même prendre contact avec toi.
Un petit SMS et je recontacte.
Hein, alors, il y a deux solutions après. Hein, parce que là, il y a un avion dessiné sur l'écran. On suit dans ton site. Hein.
Oui.
Je me rends à Porto. Oui. Donc, la ville qui n'est pas trop loin de la région.
Porto à 70 km du camp de base qui est situé à Caminha. En fait, on a un hôtel de base. Oui. Un hôtel ou un hébergement en villa, mais un hébergement de base.
Je me rends à Porto par mes propres moyens, donc c'est moi qui réserve,
l'avion.
C'est la personne qui va réserver son avion.
Voilà.
Hein. Toi, tu t'occupes pas de ça.
Non.
Voilà. Tu précises qu'il y a des vols low cost réguliers entre ici,
Léquin pendant les périodes où mes sessions sont ouvertes. Les vols de Léquin, c'est le mardi, le jeudi et le samedi. Donc, il y a que trois vols de Léquin pour Porto. Hein.
Voilà.
Après, les aéroports limitrophes, il y a Beauvais, Charleroi, c'est tous les jours. Hein.
Donc, arrivé à Porto, on me transfère à... Alors là, tu sais, Caminha, c'est ça ?
Caminha, c'est la petite commune locale. Quoi.
Voilà. Donc, tu viens chercher les gens donc, voiture, voilà.
Je les accueille à l'aéroport.
Voilà. Donc là, à partir de là, on est tranquille.
Tranquille.
Non, parce que tu sais, les Français, ils ne parlent pas bien anglais ou portugais. Voilà. Donc, ils n'ont pas peur, ça va. Ils sont pris en charge.
C'est un accueil personnalisé, pris en charge. Ils n'ont plus, à part dire merci, obrigado, et à la fin, adeus, adieu. Ils n'ont pas besoin de parler portugais.
Et je m'installe, arrivé là-bas, je m'installe à l'hôtel. Hein,
je les installe.
Trois étoiles.
Oui, ouais, non.
C'est toi qui les installes.
Certains sont venus à la maison. Hein, donc, quand c'est des petits groupes, c'est à la maison. Mais l'hôtel est très bien... Quand on est nombreux, c'est l'hôtel, quoi.
Voilà. Et je découvre la région en moto. Alors là, il y a deux solutions. Alors, soit qu'on peut venir avec sa moto.
Oui.
On peut venir de Lille, traverser toute la France et une bonne partie de l'Espagne. Hein.
Pour les vrais baroudeurs, oui.
Pour ceux qui n'auraient pas peur de faire des kilomètres. Hein. Donc ça, c'est une solution. Ou la solution qu'on vient d'exprimer, là, c'est prendre l'avion.
Moto sur plein. Hein. D'ailleurs, mon ami Francis, ici présent, il est venu une fois avec sa moto et une fois en formule moto sur place.
Alors, Francis, tu as préféré quelle version ?
Bah, écoute, les deux sont intéressantes, puisque la première, donc c'était celle où je suis parti de Seclin jusqu'à Moledo.
Moledo, Camille, hein.
Donc il y avait 1850 km, on l'a fait en 4 jours, c'est-à-dire assez tranquille. On s'est dit,
ah,
on fait à peu près 500 km par jour, et le dernier c'était même un peu plus court. Et donc bah, ça nous a permis de découvrir aussi la culture espagnole dans cette région très aride. Hein, pour arriver après au nord du Portugal, à la frontière, là, en traversant le fleuve qui s'appelle le Minho. Et puis bah, là, du coup, on était heureux d'avoir accompli cette longue distance pour après découvrir avec Antonio eh bien, sa région qu'il connaît parfaitement. Et comme tout à l'heure, tu le précisais, alors, il maîtrise bien sûr les deux langues, voire plus, mais avec lui, on est vraiment tranquille. Quoi.
Oui, parce que l'espagnol et le portugais, c'est...
Ah, c'est deux langues différentes. Hein.
Ah bon,
c'est comme tu prendrais l'allemand et le néerlandais, quoi. Ils n'arrivent pas
à se comprendre.
Si, ils se comprennent très bien. Ils se comprennent, mais ils évitent... Non, c'est...
Ah bon,
Portugal, ils veulent qu'on parle portugais, et les Espagnols, ils n'aiment pas trop. Ils font semblant de ne pas comprendre, parfois.
D'accord. Ah bon, ah, bah, c'est un peu comme dans les Flandres.
Ouais, en gros, il y a des petits... c'est partout pareil, hein. Ouais. Chacun défend...
Le long trajet, je l'ai fait qu'une roquette de chez Triomphe.
Ah oui, tu as une roquette 3. Hein.
Voilà, c'est ça. Et puis, la deuxième fois, je l'ai découvert donc, en allant en avion et puis sur des motos MASH en 400 cm3.
Donc, si on prend l'avion, bah, il nous faut une moto. Et là, Antonio, tu proposes...
J'ai 7 motos à disposition.
Voilà.
Il y a 7 motos sur place. C'est des motos biplace, donc on peut venir en couple, hein, sans aucun souci. Hein. Certains sont... Non, j'allais dire Bruno est venu en couple, on est venu tout seul, mais il a bien vu qu'il y avait des couples, il y avait des couples quand Bruno est venu.
Pas de problème. Et donc c'est des mâches, 400 cm3.
Très bien adapté au parcours qu'on fait là-bas, parce qu'on ne prend pas d'autoroute, c'est des petites routes en visite, donc c'est assez nerveux quand même pour... On a l'impression de rouler sur une grosse machine alors qu'on est sur une petite machine maniable, bien quoi. Bien. J'ai rien à dire contre MASH.
Et ça dure pendant 6 jours.
6 jours, oui. 6 jours, 6 jours de moto. Quoi.
Alors on revient toujours au même endroit, au même hôtel.
Voilà, tous les soirs.
On fait un parcours et on revient toujours au même hôtel.
En Marguerite, oui. Voilà. En gros, on fait 150 km par jour, en gros. Ouais.
J'ai vu plus quand même sur 200, ouais, ouais, bon, 150, 200.
On a un petit peu réduit parce que bon, quand il y a des couples, les filles veulent profiter de la piscine, veulent profiter de la plage. Mais quand c'est des
magasins,
les distances, je m'adapte un petit peu au profil du moteur sur place.
Jour 2, donc le deuxième jour, c'est 150 km.
Ouais, en gros, oui.
Donc là, on part à la Viana do Castelo.
Viana do Castelo, ouais. Hein, c'est la préfecture locale.
D'accord.
C'est une ville, Viana do Castelo, c'est une ville, je l'avais noté, qui fait environ 90 000 habitants. Quoi. C'est déjà une ville à 90 000 habitants, c'est une petite ville. Hein. Camiña, qui a 20 km, la ville où on est basé, elle fait 16 000 habitants.
Allez, on va faire 220 km le lendemain.
Oui.
On va à Rio Nino.
On fait de la vallée du Minho. Quoi.
Oui.
Parce que si tu veux, la région s'appelle le Minho, dû au fleuve qui fait la frontière Espagne.
Oui.
C'est le fleuve qui a donné le nom à la région. Comme on parle de la Seine ou la Seine-Maritime, enfin c'est le fleuve.
Bon, bah écoute, je propose de passer un morceau de musique et on se retrouve au Portugal juste après.
Ok.
Baby, she need me. My baby, she clothes me. My baby, she feed me. But I got me a little problem. She ain't been home for 1 week and that is 7 days. Uh-huh. My baby, she tease me. My baby, she please me. My baby, she cook for me. Right.
manage me. She went, walked this neighborhood, asked questions from my friends. They say, Stevie, don't mean to be unkind, but loving that girl, you're out of your mind, my mind.
I gotta believe him now.
Le slogan d'Antonio, c'est les voyages forment la jeunesse et la moto la sauvegarde.
Bah c'est exact.
C'est vrai.
Bah moi je pense que oui. Hein. c'est prouvé. Voilà. Hein.
Allez, on est en milieu de semaine, on continue. Par contre, j'ai vu quand même, il y a un jour, on fait 250 km jour 7.
Ouais, on fait.
Parc national Pénada, bon, Jeunesse.
Le programme est un petit peu aussi en fonction des groupes. Hein. Faut pas, certains sont moins rouleurs que d'autres, donc je m'adapte. Hein, on peut couper. Hein. Quand on marque 250 km, c'est par des petites routes. Alors,
on peut dire par exemple, non, aujourd'hui on n'a pas envie.
Tout à fait.
On va avec notre chère et tendre, elle va me dire il faut faire 250 km dans la journée, on n'a pas envie.
Tout est
proposé. Tu peux modifier le parcours.
Tout est proposé, rien n'est obligatoire. Non, c'est pas un bus qui a un parcours défini, hein. On s'adapte. Hein.
Le prix de la vie là-bas au Portugal, c'est cher ?
Non, c'est pas très cher, mais de toute façon, les formules que je propose, c'est des prix tout compris, hein. Tous les repas, toutes les boissons.
Le midi, c'est aussi compris.
Oui, tout est compris. Son pension complète, du petit-déj, repas du midi.
Petit-déj, midi et soir.
Soir. Et pour une personne seule, avec l'essence de la moto, hein, je parle pour les gens qui prennent la moto sur place. Hein. Après, ceux qui descendent avec leur moto, il n'y aura que les repas à payer. Il faut compter 990€, hébergement, tout compris.
990€ pour une semaine avec la moto.
L'assurance.
Sauf le... Oui, Francis ?
Le casque.
L'équipement.
Ah oui,
l'équipement,
est-ce qu'il faut prendre son équipement
Il faut prendre son blouson, ses chaussures moto, enfin son équipement, oui. Les gants.
Le casque, forcément aussi.
Le casque est conseillé, mais c'est pas obligatoire. J'ai deux casques par moto, mais bon, je conseille quand même, parce que ceux qui prennent des billets d'avion, c'est Ryanair, le casque passe en bagage à main, donc il n'y a pas de souci. Hein. Plein de personnes sont venues avec leur casque.
Quelques vêtements pour la semaine.
Oui, bon, un jean, des t-shirts.
Alors ça commence au mois de mars, la température, il faut prendre quoi? Des polaires au mois de mars ou ensuite?
Un polaire, c'est quand même conseillé. Hein.
Un polaire, c'est conseillé.
Vaut mieux être trop habillé et se déshabiller. Les motos sont équipées de sacoches.
Alors, tu fais une session au mois de mars, donc au mois de mars, on prend un petit polaire quand même.
Oui,
après avril, ça va...
Avril, c'est le plein
printemps. C'est le printemps là, qui arrive.
Normalement, c'est bon, il n'y a pas de...
Quel est le meilleur moment pour faire ça?
Le meilleur moment, honnêtement, il y a...
Toi qui connais bien le Portugal.
Le mois de juin, parce que les journées sont longues. Et puis après, le mois de septembre, c'est un mois merveilleux, parce que la nature a des couleurs extraordinaires. C'est les vendanges aussi, comme c'est une région...
Oui. C'est ce qu'il nous disait Bruno. Hein, Bruno, ouais. T'as goûté le vin, c'est ça?
Le vino verdi.
Le vino verdi, ouais. Voilà. Alors, c'est quoi, Bruno?
Le Perrier portugais.
Ah, c'est... Non. Bah, tu m'as dit que t'avais pas bu.
Non, c'est un très bon vin blanc,
ouais.
Hein, qu'on boit frais et
légèrement
en apéro tout le temps. Quoi. Hein, c'est populaire là-bas. Ça et puis la bière. Hein.
Et on mange de la morue.
Oh. Ouais, bacalao.
Oui, on mange la morue. Vous pouvez manger
tout,
la morue tous les jours.
Tout est fait à base de morue. Tous les jours, on peut en manger.
Non. Bien, on peut
une tradition
là-bas
au Portugal.
Oui, on peut manger la morue tous les jours. Il n'y a aucun souci. Mais faut goûter au moins une fois. Si vous aimez la morue, vous pouvez en avoir tous les jours. Mais bon, il y a de la très très bonne viande.
C'est préparé autrement. Enfin, morue à sauce tomate, morue machin, oui, morue.
on dit qu'il y a 365 façons de préparer la morue au Portugal.
Une
façon différente chaque jour, quoi. Bon, mais bon, c'est une fois elle est cuite, une fois elle est rôtie, une fois elle est au four, une fois elle est. Enfin bref.
Comment ça se fait que c'est parce que la morue, c'est le plat du Portugal.
Non, c'était, bon, à l'époque, il n'y avait pas de frigo, de congélateur, tous ces trucs-là. Et ils ont trouvé le moyen de saler la morue. Oui. Donc la morue, c'est du cabillaud, hein, du cabillaud qu'ils allaient pêcher à Terre-Neuve. Et ils l'ont ramené, ils l'ont coupé. Enfin, j'allais dire désossé,
non, salé.
Salé, oui. Et ça conservait, je dirais, presque éternum. Hein.
C'est pour ça que c'est aussi salé quand on mange de la morue.
Non, il faut qu'elle soit dessalée. La complication dans la morue, c'est qu'il faut savoir la dessaler. À un bon restaurant, elle a toujours un petit
goût de sel quand même. Hein.
Goût de sel. Ouais. Mais elle est dessalée avant, hein, sinon c'est pas mangeable.
Hein. Voilà. Donc, voilà. Bah, écoute, on termine le voyage. Ça se termine comment?
Bah, ça se termine. Le dernier jour.
Bah,
dernier jour, il y a un repas de gala.
Ça se termine pas.
Quelques larmes, que personne ne veut rentrer.
Quelques larmes, voilà.
Et puis
on se fait la bise tous et on dit bah écoutez, on a passé une bonne semaine, c'était vachement bien.
J'accompagne à l'aéroport et puis
voilà. Alors ceux qui sont revenus en avion, bah toi tu les ramènes.
Oui, voilà.
Et ceux qui sont venus en moto, bah tu leur fais
un signe
du motard.
Ils pourront même éventuellement rester, parce que là je suis basé, bon, c'est neuf, hein, le truc sur une semaine, on peut rallonger quelques jours en plus, hein, surtout pour ceux qui viennent avec leur bécane, ça coûte pas très très cher. J'ai pas de budget comme ça, mais pour 40 ou une quarantaine d'euros par jour, vous mangez, vous buvez, sans aucun souci. Hein.
Bon, tu as un site internet. Hein. Bon, il y a un petit problème pour la pré-réservation qui marche pas.
Tout fonctionne sauf
mais
la pré-réservation.
Mais on te téléphone, bien sûr, forcément. Et, bah, donne ton nom de site.
Bah, le site, c'est www.motominho.com/Portugal, tout collé, motominho.portugal.com.
Et ton numéro de téléphone, éventuellement, si tu veux le donner, si tu oses.
Ah non, il n'y a aucun souci, le téléphone est sur le site. Hein, le téléphone, c'est le 06 09 65 69 53. 06 09 65 69 53.
Bah écoute, Antonio, tu nous donnes envie d'aller visiter le nord du Portugal, hein,
Nico. Vous êtes les bienvenus.
Je pense qu'on va peut-être venir.
Ouais, Francis qui reprend la parole. Oui. Donc, effectivement, faire de la moto au Portugal et dans cette région-là, c'est un paradis. À la différence de nos régions ici sur la métropole lilloise où tout est saturé, tout est compliqué pour rouler, autant là-bas, c'est très fluide. Donc du coup, on a quand même, on apprécie différemment les choses. On roule à notre rythme, bien sûr, mais on n'est pas freiné. C'est pas un pays traversé. Alors,
les automobilistes portugais respectent les motards là-bas ?
Moyen, je dirais moyen. Ah. Non, les moyens sont pas très. Ils sont un peu jaloux qu'on les dépasse.
Ils sont jaloux.
Non, mais c'est vrai.
Ah bon ?
Non, mais c'est vrai.
Ils aiment pas trop.
Non, mais ils sont pas encore très respectueux des motards, non. Il y a beaucoup à faire. Mais bon, dans la région où on roule, il n'y a pas trop de circulation automobile. C'est ça l'avantage. Hein. On n'est pas dans les grandes villes. Hein.
Alors aussi, je voudrais rajouter une palette de paysages extraordinaires, c'est-à-dire bon, la côte atlantique, ensuite des régions de campagne, montagneuses, etc. Donc on a tout pour se faire plaisir, quoi.
Par contre, la mer,
ouais.
C'est pas.
Ouais, c'est un peu. C'est l'Atlantique, elle est froide, mais quand vous partez
c'est
en
vacances. C'est pas du 28 degrés, hein.
Ouais, mais quand tu pars en vacances sur Arcachon ou les sables d'Olonne, tout ça, elle est pas plus chaude.
Faut pas s'attendre à avoir une mer très chaude.
C'est pas la
mer. Il vaut mieux aller à la piscine, peut-être.
Oui.
C'est préférable.
Tu sais, quand t'as fait une bonne journée de moto, t'as plus trop envie. Non.
Bon, merci Francis, merci Antonio. Écoute, on garde tes coordonnées. Hein.
Avec plaisir.
Et puis, on verra un peu comment on va faire.
Bienvenue au Portugal. Welcome. Muito obrigado.
Deixa-la ser desgraçada. Porque a desgraça não se...
Música.
On quitte le Portugal et on revient ici à Lille, dans les studios de Radio Campus Lille 106,6.
C'est bien aussi.
Voilà. Et nous sommes en compagnie de Bruno Palinci qui va nous expliquer le Vintage Motor Show qui aura lieu le 23 février. Oui. Comment ça se passe ?
Ça se passe, c'est une très très belle salle à Wascal, dans le centre de Wascal. Donc il va y avoir des professionnels qui vont vendre des bricoles et surtout une exposition de très très belles motos. Alors quoi comme moto ? De tout. Plutôt de la moto classique, mais sur de la moto d'exception, enfin un petit peu tout. D'ailleurs, si vous avez une belle moto que vous avez envie d'exposer, n'hésitez pas, vous me contactez et on peut voir.
Peu importe l'année.
On essaye de prendre des motos, on va dire classiques, mais avant 2000, et après, si c'est d'exception, une belle RC30, il n'y a pas de souci, on est preneur. Hein. Voilà, maintenant, une D45 moto bécane fait l'affaire, ouais. Une 125 Peugeot aussi. Alors, il y a plutôt beaucoup d'anglaises, mais bon, on n'est pas sectaire. Hein. Il y a des BM, ouais. Des Guzzi aussi. Un peu de tout. D'ailleurs, cette année, on va avoir une Guzzi, un mono, celle de Paul, là, tu la connais, là.
Ah oui.
Donc voilà, des Air Maquis, un peu de tout. Quoi. Donc, si vous avez une belle moto et que vous souhaitez l'exposer, vous me contactez et puis on vous attend.
Ok, donc ça se passe de 10h à 18h. Hein, donc, c'est salle Pierre Herman, voilà. Wascal. Hein, c'est en centre-ville.
C'est en plein centre-ville. D'ailleurs, bon, faire attention pour se stationner. Il y a un très, très grand parking en face de la mairie qui est couvert. Donc, n'hésitez pas, c'est à 100 mètres à peu près. Vous garez là-bas, vous venez à pied. Ensuite, après, il y a une buvette, restauration.
Pour les pièces, il y a encore de la place ?
Oui, d'ailleurs, pareil. Hein, si vous avez des pièces à vendre, n'hésitez pas. Des pièces, des motos à vendre. Sur le parking extérieur, on va faire donc un espace qui va être réservé aux motos à vendre.
Ça, c'est nouveau.
C'est nouveau. Alors, quelle que soit l'année de la moto, vous arrivez, on vous place, et puis voilà. Et puis, on espère que vous vendrez votre moto.
C'est payant ?
Oui, on demande 10 euros par moto.
D'accord. L'entrée, elle est modique.
L'entrée est modique.
Pour rentrer dans la salle, 2 euros.
C'est 2 euros, voilà.
Voilà. Et les pièces, je suppose que c'est du mètre linéaire, je ne sais pas.
Non, c'est gratuit. Hein.
Ah, c'est gratuit ?
C'est gratuit. Si vous avez des pièces à vendre, vous me contactez et puis on vous réserve. Tout à fait.
D'accord.
Hein, elle a toujours été gratuite. Et puis voilà.
Il y a un site internet, un numéro de téléphone.
Alors, le site n'est pas encore à jour, mais ça va être fait cette semaine. Mais sinon, c'est le site des Amis de la Moto. Hein. Sur Google, vous tapez les Amis de la Moto et vous allez tomber sur notre site.
Et puis aussi, page 19 du calendrier des motoclubs 2020. Voilà. On retrouve
tout à fait.
Votre flyer et aussi
le petit résumé.
Le résumé.
Et en plus, mes coordonnées.
Donc
n'hésitez pas, comme ça, vous prenez votre calendrier et vous avez tout.
Merci Bruno, tu restes avec nous parce que tu fais partie de l'ASPI, on va en parler,
exactement.
On va revenir un peu sur cette association.
Donc je fais partie un petit peu de tout, Tonio est un ami, j'étais au Portugal avec.
Tu fais tout
Moi je tremble dans toutes les affaires.
Dans tous les bons coups. Pour l'instant il tremble que dans les bons coups. Hein.
Bon allez, un peu de musique, on se retrouve juste après.
Power that in a witching hour
De la moto sur campus tous les dimanches de 11h à, on sait pas, quand on n'a plus rien à dire, voilà. Et aujourd'hui, on va parler de l'histoire de MotoGP. Ça tombe bien parce que page 48, alors si vous avez le calendrier, vous le prenez et vous ouvrez, il y a les grands signes, Laurent. La page 48, un petit résumé sur cette histoire de MotoGP qui va fêter ses 100 ans l'année prochaine, Nicolas.
Oui, voilà. Donc en fait, toute l'histoire démarre à la Première Guerre mondiale. À la Première Guerre mondiale, il y avait Carlo Guzzi qui était déjà un mécanicien confirmé. Il travaillait sur l'Ac de Com, sur les bateaux, en fait, plutôt. Et il se retrouve mobilisé pour entretenir les hydravions. Et les hydravions, en fait, ils combattent dans la lagune de Venise. Ils combattent les Autrichiens et les sous-marins allemands. Il y avait déjà des sous-marins, mais c'est des sous-marins primaires, donc il y avait juste on les voyait à fleur d'eau. Et donc, avec les avions, ils arrivaient à les dégommer. Ouais. et là, ils rencontrent deux pilotes d'hydravions, Giorgio Parodi et Giovanni Ravelli. Et tous les trois, en fait, ils découvrent qu'ils sont passionnés de moto. Et le soir, pour décompresser, ils boivent un coup, ils discutent. Et Carlo Guzzi, il explique ce qu'il aimerait bien construire comme moto. Et avec l'enthousiasme de ces retrouvailles le soir, là, ils font un pacte. Et ils disent, bon, bah, allez, dès que la guerre est finie, on va se lancer dans ce projet-là. Toi, Carlo, tu construiras les motos. Giorgio, ben, lui, c'est son père, c'est un armateur génois qui a de l'argent. Donc il dit, moi, je m'occupe du financement. Et puis Giovanni Ravelli, c'est un pilote d'avion et pilote de moto déjà. Il a déjà gagné des courses, il a gagné notamment des courses en Espagne. Il est connu, à cette époque-là, en Italie, tout le monde a un surnom. Et son surnom, c'est le Diavolo, le Diable. Et parce que c'est un fou du volant, un fou du guidon. Et il se dit, moi, je ferai briller la moto en compétition, et voilà. Et à la fin de la guerre, malheureusement, Ravelli se tue en essayant un avion français, un Newport 11. Il fait un test de longue durée et à l'atterrissage, le moteur se bloque et il tape et il se tue. Et c'est d'ailleurs en son souvenir que l'emblème de Moto Guzzi, c'est un aigle aux ailes déployées, ouais. Pour faire référence à leur compagnie d'aviation et à Ravelli. Mais finalement, le projet tient bon et la famille Parodi, elle apporte les fonds. Et Guzzi, Carlo Guzzi, il crée un petit atelier à Mandello del Lario, donc c'est au bord du lac de Com, hein, c'est un endroit superbe également. Hein. D'ailleurs, l'usine est encore à la même place aujourd'hui.
Alors, c'est incroyable que 100 ans, cette usine est restée.
Elle est restée là, elle est toujours
agrandie. C'est l'origine de Moto Guzzi.
Alors, elle ne peut pas s'agrandir beaucoup parce que d'un côté il y a le lac, de l'autre côté il y a la montagne. Donc, elle est toujours là. Et l'adresse, c'est Via Parodi. Donc, ils ont conservé le nom du fondateur pour la rue. Et son idée à Carlo, c'était de construire une moto très maniable, avec un centre de gravité le plus bas possible et un bon refroidissement. Alors, il construit un mono 4 temps horizontal, semi-culbuté. Et contrairement aux autres constructeurs de l'époque, le semi-culbuté, lui, il fait la soupape d'échappement qui est culbutée. pour avoir, parce qu'elle a en tête, comme ça, elle a un meilleur refroidissement pour l'échappement. Il met des côtes super carrées pour mettre des grosses soupapes, c'était pas courant à l'époque. Et un cadre surbaissé, elles sont très basses. Et ça marche, dès 1921, la moto gagne des courses et les Gusy se vendent. Et c'est marrant parce que les côtes moteurs de cette première moto, c'est encore celle des derniers Mono Falcon en 1976. Donc ils ont quand même fait durer leur idée. Hein. Et Carlo, il a un frère, son frère s'appelle Giuseppe, et il est ingénieur, son frère. Et c'est lui qui a construit les bâtiments de l'usine et qui a construit la centrale hydroélectrique qui alimente le Mandello et l'usine en électricité. Alors, à ce sujet-là, la Miche, il y a une petite...
Alors, il y a une... Bah, moi, j'avais visité l'usine, hein, Moto Guzzi. Et donc, il y a une soufflerie, mais le ventilateur, c'est énorme. Hein, c'est des palmes qui doivent faire, je ne sais pas, 5-6 mètres de longueur. Hein. Ils ne peuvent utiliser la soufflerie que la nuit. Parce que sinon, la journée... ça prive Mandello de courant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de courant dans Mandello. Donc ils sont obligés de faire les tests de soufflerie la nuit.
Ouais. En fait, cette soufflerie elle existe depuis les années 50, et effectivement, au début, quand on commençait à l'utiliser, il n'y avait plus de courant pour toute la ville, tout le monde était dans le noir parce qu'il faisait tourner. Donc tout le monde était au courant quand ça tournait là-haut. Ouais. Et donc, ce frère de Carlo, qui est Giuseppe, il est aussi passionné de moto. Et il adore les voyages en moto. Et tous les étés, il part seul sur sa Guzzi. Et il a aligné une série impressionnante de raids. Il a été joué au Cap Nord et tout ça, hein, avec les motos de l'époque. Hein. Et un jour, au fin fond des Carpates, il casse son cadre. C'était des cadres rigides. Et en bon ingénieur, il bricole un truc avec des chambres à air, des couvertures, il bricole. Il revient à Mandello et il dit à son frère, écoute, elle marche vachement mieux comme ça. Et donc, il passe tous les deux à la planche à dessin. Et ils inventent les prémices de ce que ça sera une moto avec un cantilever, en fait. Ils mettent un boîtier avec un caisson de ressort en dessous du moteur, les prémices d'un bras oscillant qui appuie dessus, et puis pour freiner les mouvements, ils mettent des compas à friction, et puis ils ont inventé la moto suspendue. Et à l'époque, on n'y croit pas du tout, surtout en compétition, parce qu'en compétition, tout le monde est en rigide. Et il a fallu qu'en fait c'est Stanley Wood au TT en 1935, il a gagné en lightwear et en senior et sur Guzzi avec cette suspension. Et là c'était la première fois qu'une moto étrangère gagnait et la première fois qu'une moto avec des suspensions entièrement suspendues gagnait. Donc ça a été la petite révolution, on en a beaucoup parlé à l'époque. Et Guzzi, ben, ont été inventifs. Hein. On a toujours l'impression d'une vieille marque. À l'époque, ils se sont essayés à toutes les architectures moteurs possibles et imaginables. Hein. Ils ont même fait un V8. Hein. Et ça a été une période dorée pour Guzzi. Alors, à la fin, en 1957, ils ont arrêté les compétitions parce que les finances commençaient à manquer. Les années 50, c'est compliqué. La fin des années 50, début des années 60 pour la moto, c'est très compliqué. Mais quand même, 3300 victoires, 14 titres mondiaux et 11 victoires au TT. Donc, c'était des motos qui marchaient. Et justement, ces années 50, elles ont coïncidé avec le décès des fondateurs. Parodi et Guzzi sont Parodi en 55, Guzzi en 64. Ils sont disparus au mauvais moment parce que les années 60, ben, c'était les années noires de la moto. Hein. En France, il y avait la 2-chevaux Citroën, il y avait la 4-chevaux Renault.
C'est parce que la voiture, est, par rapport à la moto, le prix était moins cher des voitures que des
voilà,
motos.
Voilà, on commence à avoir des voitures pas trop chères, ouais. Les gens ils préfèrent une bagnole. La Coccinelle en Allemagne, la Fiat 500 en Italie, tout le monde veut des bagnoles. Y a plus que, en deux roues, il n'y a plus que les cyclos qui se vendent. Et donc, il y a une société de gestion qui fait l'intérim. Et Guzzi est mal en point. Et c'est la police qui va sauver Guzzi de la faillite. Pourquoi ? Parce que l'État lance un appel d'offres pour renouveler son parc de motos et il veut une grosse moto. Hein. Ils avaient déjà des monos Guzzi. Ils veulent une grosse moto et il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et Carlo Guzzi, il avait laissé son ingénieur Carcano un peu donner libre cours à son imagination. Et Carcano, lui, sa femme avait une Fiat 500, il avait démonté le moteur et il avait foutu un moteur qu'il avait construit, un bicylindre dedans. Il roulait à 140 avec, il prenait son pied à débouler à 140 avec une petite Fiat 500 qui roulait à 80 à l'époque. Et, Et donc, ce moteur-là, il l'a utilisé finalement pour une commande militaire de 3-3. Donc, ce n'était pas un 4-4, c'était un 3-3. Et il l'a adapté à la moto. Et c'est ce qui va devenir la V7.
V7. C'est mythique.
C'est ce qui est l'origine du moteur Guzzi tel qu'on le connaît maintenant. C'est ça, c'est ce moteur-là. Et cette moto, elle est massive. C'est une grande routière. Hein. Initialement, c'était un 700 cm3. Et ça va connaître un succès commercial aux États-Unis. Et c'est ce qui va faire redémarrer la marque et la maintenir. Parce que, bon, elle a un look qui plaît aux Américains. Ils l'appellent The Buffalo. Et elle a un caractère de locomotive. Hein. C'est vrai que le caractère du moteur Guzzi, il était déjà là. Hein, c'est un caractère où il y a un petit peu beaucoup d'inertie. Mais une fois que c'est lancé, c'est une locomotive. Et deuxième analogie ferroviaire, si on veut, pareil, pour l'incliner, il faut un petit peu se bouger pour la mettre sur l'angle, mais une fois qu'elle est sur l'angle, elle bouge plus, c'est un rail. Donc il y avait déjà tout l'ADN de ces motos Guzzi telles qu'on le connaît. Et donc, ça va donner naissance à la première qualif. Donc voilà, on peut peut-être faire une petite pause pour prendre notre souffle avant d'aborder les V7 Sport, les Le Mans et un petit peu la suite de l'aventure actuelle.
Alors, on termine l'histoire de MotoGuzzi qui, on rappelle, fêtera ses 100 ans l'année prochaine. Et ça se passera, alors je ne sais pas si ça se passera au mois de septembre.
Si, si, début septembre. Début septembre. Dans les premiers 10 jours de septembre, tous les ans, à chaque fois.
Donc, près du lac de Com. À Mondello de Lario.
Une superbe région, hein. C'est vraiment une belle région, super agréable à faire en moto, les petites routes le long du lac, l'arrière-pays, c'est vraiment très, très agréable. Et oui, donc on retourne là-bas avec ce moteur en V, hein. C'est un bicylindre en V culbuté, c'est un petit peu original comme fabrication, c'est tout en alu, un carter monobloc. Vilebrequin, Brabham sur palier lisse. Hein. Et d'ailleurs, on dit toujours, nous, les guzistes, le secret d'une guzie, c'est qu'il y a du jeu partout. Hein, les BM, leur secret, c'est la pompe à huile balèze. Nous, c'est parce qu'il y a du jeu, que ça tient le coup. Et donc, ça peut chauffer un peu, il y a de la marge. le véritable coup de génie de ce moteur-là, ça va être Lino Tonti, qui va remplacer l'ingénieur précédent, Carcano, qui est parti à la retraite. Et lui, il va avoir envie de reprendre les préceptes de Carlo Guzzi en son temps. Hein, Carlo Guzzi, c'était quelqu'un qui aimait les motos sportives. Et avec cette espèce de vieille mémère, il va essayer de faire une moto sportive. Et il va réussir, hein, puisqu'il va réutiliser ses préceptes. Abaissement du centre de gravité, amélioration des performances, priorité à la tenue de route. Donc il va remplacer la dynamo qui est trop haute par un alternateur en bout de vilebrequin. Il va concevoir un cadre démontable qui enserre au plus près le moteur de la V7. Et puis mettre des grosses soupapes, un gros carbu et donner naissance à une moto considérée comme la plus belle du début des années 70, la V7 Sport. Il y a Saarinen qui va l'essayer, ils vont la faire essayer à Saarinen. Mike Elwood, hein, qui après l'essayer dira qu'elle a le meilleur cadre de série jamais conçu. On va parler du moteur, hein, Michael Wood, parce que c'était quand même un moteur avec beaucoup d'inertie. Et en 72, arrive, alors que vient juste de naître la V7 Sport, prend les rênes de l'entreprise pour, jusqu'aux années 90, un drôle de zigoto. Il s'appelle Alejandro de Tomaso. Alors c'est un gars qui a fait de la Formule 1, c'est un pilote argentin. Il s'est fait plus ou moins virer d'Argentine parce qu'il s'est pris la tête avec le pouvoir là-bas. Et il va créer sa propre marque de voiture, de Tomaso. Il va racheter Maserati, Innocenti, et puis Guzzi et Benelli. Donc c'est un gars qui a de l'argent, qui est ambitieux. Il s'est mis en tête de battre les Japonais sur leur terrain en proposant des copies quand même franchement moins bien finies de leur production, et surtout sous la marque Benelli. Hein, il a fait des 4 cylindres, des bicylindres, un 6 cylindres, Benelli. Il y avait des Guzzi qui étaient rebadgés, enfin des Benelli rebadgés Guzzi pour étoffer la gamme. Bon, c'est pas la meilleure période, mais il va avoir quand même le mérite d'avoir maintenu la marque et surtout de reconnaître qu'il s'est planté et de revenir aux fondamentaux de Guzzi. Hein. Il va donner naissance au Le Mans, et il va créer la lignée des petits blocs, hein, à partir de la V50. Et la moto repart, hein. Moto Guzzi sera novateur, le freinage intégral, ils ont inventé ce système, alors en le faisant vraiment de façon très simple, hein. C'est simplement la différence des tuyaux qui faisait une différence de pression. C'est vraiment un truc hyper simple.
Si on freinait l'arrière, en fait, la moto freinait avant et arrière.
Ouais, c'est ça. La pédale, elle actionne. Il actionne des deux côtés. Ouais. Et en fait, la pression, elle se fait plus ou moins fort parce qu'ils ont mis des diamètres différents pour freiner. Ça marche très bien. Avec leurs essais en soufflerie, ils font des motos carénées qui sont un petit peu plus regardables que les BM de l'époque. Ils ont aussi fait une moto automatique, un petit peu trop tôt sûrement, avec le convertisseur, parce que ça n'a pas beaucoup marché, mais dans les années 80, on se battait pour les avoir, parce que les gens qui avaient un handicap, ils adoraient cette moto.
C'était la Convert.
La Converte, une grosse mob, 2000 cm3. et puis il débute la lignée des Le Mans, hein, avec le passage à 850, puis en 1000, du bicylindre. Et puis la déclinaison un peu géniale, quoi, de modèles sportifs ou tourisme, très typé, mais à partir quand même du même cadre et de la même base moteur. Hein, on change les éléments dans le moteur pour le rendre plus sportif, et puis ce cadre, on l'adapte, et il a servi à faire des motos de tourisme et des motos plus sportives. Et là, Guzy vient un petit peu sur ses acquis et elle se réveille dans les années, à la moitié des années 80, parce qu'il y a un gars outre-Atlantique, un dentiste, qui s'appelle John Whitner. Et alors que Guzy faisait plus grand-chose, John Whitner, lui, en trafiquant des Guzy, il a réussi à gagner le championnat en 84 et en 85, le championnat US d'endurance et la bataille des Twins. Et il a préparé une Guzy très modifiée pour Doug Drawnett qui va remporter encore une fois en 87 la bataille des Twins américaines. Et là, les dirigeants de Guzy se réveillent un petit peu en sursaut. Ils regardent ce qu'il fait et ils vont en faire un consultant privilégié de l'usine. Ils vont reprendre l'idée de son cadre et de sa façon de traiter le moteur pour la Daytona, la Santoro, la 1100 Sport, la V11 Sport. Et puis en même temps, ils vont essayer de resserrer la qualité de production. Parce qu'à l'époque, Guzy fabriquait tout sur place. Hein. La fourche est fabriquée sur place, les cadres sont soudés sur place. C'était une usine où on fait tout, c'était pas une usine de montage. De Tomasso avait essayé de décentraliser ça, parce que comme il avait des usines Innocenti, puis qu'Innocenti s'est cassé la gueule, il voulait transférer l'usine à Milan, parce que c'est bien plus facile, il y a l'autoroute partout, c'est plus facile. Et là, il y a eu des grèves.
Les commerçants de Mondello ont fermé baissé les volets.
Un peu comme à Meriden à l'époque en Angleterre. Et donc, c'était Moto Guzy, c'est à Mondello, point.
Ça doit rester là.
Et finalement, il s'est resté. Et dans les années futures, il va avoir des grèves pour la même chose. D'ailleurs, c'est Aprilia qui a racheté la marque en 2000. Et puis, alors là, Aprilia, eux, justement, ils faisaient appel à des sous-traitants à tout azimut, mais avec des mauvais contrôles de qualité. Et donc, c'est à ce moment-là que les motos vont commencer à souffrir de soucis de fiabilité. Et ça rechange de main en 2005. C'est maintenant Piaggio qui a la charge de relancer la marque. Et Piaggio a essayé, pareil, de délocaliser la production dans l'usine Aprilia qu'ils avaient rachetée aussi à Noël, qui est plus pratique, qui est moderne. Parce que là, c'est l'usine de Mandello, c'est l'usine historique. Hein. Il y a des carreaux cassés, c'est vraiment des vieux bâtiments. C'est ceux qu'avaient construit Giuseppe Guzzi. Hein. Donc c'est vraiment une antiquité. Mais ça a son charme. Il y a eu la grève, il y a eu tous les motoclubs Guzy du monde qui ont écrit à Piaggio et qui ont fait des pétitions. Il y a les habitants de Mandello qui ont fermé leur volet en signe de protestation. Et finalement, Piaggio a été dissuadé de poursuivre dans cette voie et
de laisser l'usine à Mandello.
D'ailleurs, c'est une des rares usines maintenant où, parce qu'il y a quand même Triumph, BMW, KTM, ils fabriquent en Thaïlande, en Inde, en Chine. Et là, tout est resté contre vents et marées sur le site historique. On continue d'y produire des motos à fort caractère dans le site historique. Et il y a une petite anecdote. La fameuse moto de Giuseppe Guzzi avec laquelle il a fait tous ses raids, elle existe toujours, cette moto, elle est à Mandello. Et il y a un membre qui s'appelle Suki, qui est un membre du motoclub de Mandello. C'est un champion olympique d'aviron. Et il a pris cette moto en 1991 et il a refait la dernière balade de Giuseppe Guzzi jusqu'en Laponie, aller et retour avec la même moto. Et sans aucun souci, quoi. C'était des motos très solides. Et justement, Giuseppe Guzzi n'avait jamais ouvert son moteur pour voir justement combien elle pourrait faire. Et la moto tourne toujours, elle est toujours là. Et elle a été donnée, du coup, au motoclub de Guzzi de Mandello. Ils en ont la charge. Donc voilà, effectivement, l'année prochaine, y a une grande fête qui est prévue pour fêter les 100 ans. Ce n'est pas toujours qu'on fête les 100 ans d'une marque de moto. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été jusque-là, sans interruption de production, avec des hauts et des bas, forcément. Mais bon, c'est tout un pan d'histoire. Alors, on ne sait pas combien de temps ça va durer encore, parce que c'est vrai qu'ils ont du mal. Ils ont du mal à cause des normes de pollution. Hein. Ils n'ont pas la capacité financière de pouvoir reproduire des moteurs avec des normes qui changent. Ils sont restés aux moteurs à air. Ils vont devoir investir lourdement pour passer le cap. Donc, on espère fêter tout ça dignement l'année prochaine à Mandello en septembre.
Voilà, et on peut visiter hein, l'usine. Hein, chaque septembre, chaque année, on peut visiter l'usine. Hein.
On peut visiter le musée tout le temps, sauf au mois d'août, parce qu'il est fermé au mois d'août.
Oui.
Mais on peut visiter l'usine à chaque fois en allant au Guzzi Days en début septembre.
Voilà, et on retrouve le résumé de cette histoire Moto Guzzi là, dans le calendrier, page 48.
Si vous êtes intéressé par Moto Guzzi. Voilà, maintenant on va parler de l'ASPI. Philippe, tu nous rappelles ce que c'est que l'ASPI ?
Bah, l'ASPI, comme je disais.
Alors l'ASPI, c'est en moto, c'est se mettre derrière un pilote, juste derrière, hein, et pour profiter de sa traînée et de pouvoir le dépasser.
Bah, nous, on ne veut pas pomper, justement. On veut être partie prenante dans le projet, et ce à quoi on essaye d'être vigilant avec voilà, les futurs investisseurs.
Revient à ce qu'on disait au sommaire de cette émission. Il y a un projet de gestion. Alors, ce sont les fondateurs de la société Folombray Arena qui proposent un projet de reprise de gestion du circuit de Lezennes. Mais ça va changer des choses. Xavier ?
Oui, et nous, on se bat depuis
un moment. Les prix vont augmenter.
Comment ?
Les prix vont augmenter.
Les prix vont augmenter inévitablement, forcément. C'est une entreprise qui reprend ça. Il faut qu'ils gagnent de l'argent.
Ils ne sont pas philanthropes.
Voilà, absolument. Mais
ils
nous, l'ASPI, qui sommes là depuis le...
Depuis deux ans,
on se bat, on fait régulièrement des réunions. Et d'ailleurs, les motards s'inquiètent parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe depuis deux ans.
Ça fait deux ans que ça
dure. Oui, toi le premier, tu me poses dix fois la question par mois.
Oui.
Bon, il faut savoir qu'on a beaucoup travaillé, mais on ne pouvait pas non plus parler de certaines choses parce que...
Pour protéger un peu le projet qui était en cours.
Oui,
enfin, voilà.
Oui. Alors, il faut savoir que nous avons prévu de toute façon, nous, à notre niveau, l'ASPI et auprès de la direction de Follembray, l'organisation de journées mensuelles de roulage libre à des coûts réduits. Hein. Ce seront des journées qui seront concernées par l'ASPI. Et non pas par Follembray. Follembray aura ses propres journées de roulage.
Il y a deux entités là, donc.
Oui. Alors justement,
il y a une espèce d'association. Il va y avoir un président, une association loi 1901, c'est ça ?
Aujourd'hui, il y a une structure.
Et cette société de gestion.
Juste. Oui. Il y a quand même, pour comprendre, Xavier, l'ASPI, donc, est une association qui a été créée là, au printemps 2018 avec président, enfin un bureau, voilà, et des membres. Donc on est une vingtaine à peu près, qui est composée, alors pour essayer aussi, il y a des fantasmes derrière tout ça puisqu'on n'a pas communiqué, mais donc on a essayé de, d'avoir autour de nous des gens, alors comme je disais tout à l'heure, bénévoles, salariés, des anciens salariés de la RCM. On a des équipes de routards, de routards ou de pistards, on va dire même plutôt. Il y en a quelques-unes quand même qui sont là présents, donc qui sont là aussi pour défendre et apporter aussi leurs envies, leurs besoins. Et donc voilà, au travers de tout ça, nous on se rencontre régulièrement avec... nos futurs investisseurs, et donc on essaye de défendre les intérêts de la moto pour essayer de voir encore des motos et pas que des quatre roues, parce que là
oui, qu'il y aura
votre idée aussi, c'est de remettre en état le terrain de motocross.
Non, alors justement le terrain de cross est annulé. Oui, mais moi, forcément, c'est ce qui m'intéresse le plus. Par contre, le terrain de trial va subsister. Hein, il y aura un terrain de karting aussi. Hein, et nous, on souhaite que les actions pédagogiques qui étaient à l'origine de ce circuit continuent, et surtout à destination des jeunes publics, pour la préparation à la conduite sur route et sur piste.
Bon, alors, le problème, c'est que pour remettre en route ce circuit, il faut 300 000 euros.
Oui.
400 000 euros.
C'est l'estimation.
L'association, l'ASPI n'a pas cet argent.
Non, l'ASPI n'a pas d'argent.
Où est-ce qu'on va chercher cet argent?
Alors, justement, c'est ce nouveau montage...
Je rigole, mais...
Ce nouveau montage qui apporterait
C'est Arena.
Voilà. Ouais. Voilà, qui apporterait...
Qui ramènerait cette somme. Comme on rappelle que ce n'est pas des philanthropes, ils vont vouloir récupérer cet investissement.
Voilà. Exactement. Et bon. nous, on souhaite évidemment avoir un local, sinon, que faire
eux,
si
ils
on
disent,
est...
attendez,
oui,
nous, mais...
Voilà, voilà. Mais nous, on insiste et on souhaite aussi un garage solidaire. Hein,
ah oui.
Ce qui est important.
Mais même vous ne ramenez pas d'argent.
On n'a pas d'argent.
Oui. Bien sûr. Donc c'est eux qui vont ramener l'argent.
Kikakou peut nous aider.
Ouais, par exemple.
C'est un exemple.
C'est un exemple.
Bon.
Hein.
Bon, et on souhaite aussi faire des rassemblements d'associations de motards pour exposition de motos modernes, vintage, néo-rétro, etc. Et aussi monter des journées bourses d'échange en partenariat avec les concessionnaires locaux, salon de la moto, etc. Et aujourd'hui, il faut savoir que l'association des concessionnaires moto de ce clin nous suit à 100%.
Bruno, toi qui es partout et qui fais partie aussi de cette ASPI.
Depuis le début, tout à fait. Ben, on essaye de réouvrir ce circuit. Notre but, c'est ça, c'est la réouverture du complexe moto. Alors, nous, on n'a pas les moyens, donc on n'avait pas tellement le choix parce que de toute façon, il faut de l'argent. Donc... ces investisseurs sont là pour.
Il faut saluer leur initiative.
Voilà, tout à fait.
Parce
donc,
que sinon, le circuit de Lausanne n'existe plus sans eux.
Donc, on ne peut pas non plus les.
Non,
ils sont importants quand même. Hein.
Voilà.
Donc, le tout, c'est de pouvoir s'entendre.
Voilà.
De faire un montage qui fonctionne.
Et malgré tout, il faut que l'ASPI subsiste au sein de ce nouveau montage.
Alors, il faut qu'ils comprennent que vous devez exister et vous devez comprendre qu'eux, ils doivent exister aussi.
Absolument.
Effectivement, on a des intérêts qui sont peut-être un petit peu différents, évidemment. On a un secteur associatif, on a un secteur qui est privé. Donc, voilà.
Est-ce que ça peut cohabiter?
Moi, je pense que ça peut cohabiter tout à fait. De toute manière, ça va être inévitable.
Il faut que ça cohabite.
Parce que quand même, enfin, alors, il faut être prudent sur le. Enfin, moi, j'essaie d'être prudent sur l'avancée du projet, parce que ce qu'on dit aujourd'hui ne sera peut-être pas ce que sera demain. Il y a des choses qui ont été avancées, c'est bien. Aujourd'hui, Follembray commence à communiquer. C'est essentiel, à mon sens, parce que je pense qu'il va aussi falloir du monde derrière pour défendre le projet. Je pense qu'il va falloir s'y rassembler, tous les motards. Je pense que pour ça, d'ailleurs, il y a un événement qui risque d'être prévu, en tout cas, lors du Seclin Motor Show. Donc ça, je pense que là aussi, il va falloir montrer et faire savoir qu'il y a un projet qui est en cours. Reste quand même décisionnaire, Lamel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une année quand même assez décisive.
Puisque on va attendre le mois de mars.
Et ouais,
après les élections,
et
c'est ça.
Et après, il faut savoir aussi, il faut être un peu lucide et se dire que la décision, elle ne va pas être comme ça d'un claquement de doigts et que chacun doit prendre son poste. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, on est dans l'attente. Arena Follembray a essayé de rencontrer Lamel. C'est un peu compliqué parce qu'évidemment, personne ne prend de position. Il y a des électeurs derrière. Hein, enfin, voilà, on va à piano. On va attendre tranquillement que les élections passent et puis on verra bien. Donc maintenant, après coup, je pense qu'effectivement, il va falloir faire savoir qu'on est là et qu'on veut que ce circuit vive parce qu'il y a un intérêt important d'un point de vue pédagogique, éducatif, d'un point de vue sécurité routière, je vais y arriver. Il ne faut pas que ce circuit ferme.
Voilà, et donc aussi avec des tarifs qui vont forcément augmenter.
À part les journées spéciales de l'ASPI ou des associations comme Bruno, avec ses journées rétro. Sinon, oui, effectivement, les motards. Il faut savoir aussi que
de revoir des journées les amis de la moto.
Bien sûr.
Mais notamment, il faut aussi parler de l'homologation. Hein.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. L'avantage, là, il ne va pas homologuer ce terrain.
Si Arena ramène de l'argent, c'est pour homologuer. Ça coûte autant, comme on a dit.
Et donc, si c'est homologué, ça sera indispensable. Tous les pilotes devront avoir une licence.
Voilà.
Licence
FFM.
Obligatoire.
Oui, parce que là, la FFM est quand même partenaire. Donc c'est aussi ça qui, moi, m'interroge parfois. Par exemple, le terrain de cross, c'est vrai qu'on en a parlé à un moment. Enfin, je pense que ça intéressait aussi la FFM. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Bon, c'est bien dommage de perdre tous ces outils-là quand même. Alors évidemment, il y a des choix qui devront être faits, inévitablement. Mais voilà, nous, en tous les cas, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de pouvoir, très sincèrement. On est souvent très critiqué sur les réseaux sociaux. C'est pas évident du tout à supporter.
Tout le monde est impatient,
en fait. Je pense qu'on essaye de faire notre maximum pour que, en tous les cas, le circuit déjà réouvre et que l'on puisse, nous, en tant que motards, pouvoir s'exprimer encore très longtemps dans toutes les disciplines possibles.
Et surtout, pouvoir encore
prochaine
rouler.
Échéance, c'est Motor Show, mois d'avril. Vous allez avoir un stand pour communiquer avec les motards, leur expliquer comment ça se passe.
Les concessionnaires.
Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se mettre au point?
Oui, alors théoriquement, il est prévu un stand probablement avec la FFM aussi, de manière à montrer et à mettre au jour le projet qui est le leur, et le nôtre aussi, puisque du coup, on y prend part, pour informer le maximum de gens, de telle manière à ce que, s'il est nécessaire de faire un peu pression, eh bien, on puisse le faire.
Très bien, Philippe. Mais avant le Motor Show, au mois d'avril, il y a le Vintage.
Ah oui. Hein, le 23 février.
Le 23... Non, pas, mais non, l'Enduropal.
Moi, je parlais de l'exposition à Huascal, voyons.
Arrête le pinard portugais. Hein.
il s'appelle aussi Salon Vintage, alors forcément...
Le Vintage,
voilà celui qui va le gagner, vous l'avez ici, dans l'émission Vintage.
Philippe.
Je ne suis pas tout seul, on est 600 cette année.
Donc, Dossard, combien tu m'as dit?
110.
110, hein, je vais noter là. Oui. 110, parce qu'on va y aller. Et donc on sait que tu es pas trop. Enfin, toi, ça va encore, mais la moto, elle est pas encore trop au point, mais ça va aller.
C'est le problème du vintage.
On dira 110. De manière, Dossard 110. Et on termine l'émission avec notre ami Locke.
Salut,
le roi du calendrier, des calendriers, avec une nouvelle version du calendrier.
Une version numérique augmentée, non, enrichie en fait.
Enrichie.
On est victime de notre succès, on a beaucoup. beaucoup d'infos, notamment via les réseaux sociaux. Et du coup, bah voilà, les 64 pages suffisaient plus. Bon, au niveau de l'impression, on peut pas rajouter une page, comme tu sais, c'est au moins un multiple de 4, voire même plus. Et donc, on a fait une version augmentée qui fait 67 pages et qui est disponible sur notre site internet. Et donc ça, c'est la dernière version à jour d'aujourd'hui qu'on vous propose d'aller télécharger sur k1c.free.fr. Hein, c'est en pleine page, juste sur la page d'accueil. Vous cliquez dessus et ça se télécharge.
Et c'est la dernière, il n'y en aura pas plus.
Il n'y en aura pas plus. Et en plus, c'est une version en haute def. Hein. Ouais. Donc tu pourras l'imprimer et tu auras des images de très 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 belle qualité.
Voilà, merci Lug. Alors Philippe, bonne chance. Hein.
Ouais, merci. Bah,
bonne chance pour le. Tu feras peut-être un podium dans 15 jours.
Ça sera bien, mais je ne crois pas beaucoup maintenant. Hein, les deux années précédentes, ça a été des casses répétitions. Donc maintenant.
Dossars numéro 110. Xavier, bon, ben, au mois d'avril alors,
oui,
au Motor Show.
Non, mais l'année prochaine.
Bruno, on ne sait plus, il va être partout. Tu seras à Wascal,
en Espagne.
En Portugal. Tu es au Portugal, en Espagne, mais tu dis la bêtise. Tu es au Portugal, Antonio, alors là, prends le micro. Bah,
bienvenue. Hein,
on a envie d'aller visiter le Portugal. Hein, c'est le nord du Portugal en moto.
Vous ne serez pas déçus.
Hein, voilà, alors tous donc, sur le site d'Antonio. Et. J'ai dit Yanis, mais là il n'est pas parlé, donc c'est pour la peine qu'on présente.
L'enfoiré.
J'ai pas parlé, j'étais dans le touriste, comme d'habitude.
C'est normal, il est spécialisé dans le tourisme en moto.
Et Lug, merci aussi pour la nouvelle version numérique du calendrier des motoclubs 2020.
Avec plaisir.
Allez, rendez-vous dimanche prochain, l'émission se termine, 11h bien sûr, sur les ondes de Radio Campus Lille 106,6 ou sur internet www.campuslille.com.
Au revoir.
Merci, à bon dimanche.
Salut.
Ciao.